RCFM, Sabienza, Jean-Michel Fradigelli, Fabrice Fenouillère.
Fabrice, bonjour.
Jean-Michel, bonjour.
Ravi de vous retrouver chaque samedi avec un thème fascinant pour ce nouvel opus de Sabiens. Et vous allez, pour une fois, présenter notre invité, non pas sur notre indicatif, mais sur une musique très particulière.
Ah bon ? Mon Dieu, je m'y attendais pas. Alors, je le fais en aborigène ou en français ?
Vous le faites comme vous voulez.
Non, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une chance folle parce qu'on va s'envoler en Australie. On le comprend quasiment avec cette musique derrière moi, au cœur des peuples aborigènes, pour en découvrir l'histoire, les rites et l'actualité. Ça va être fait en compagnie de Barbara Glozewski, ethnologue, anthropologue, directrice de recherche au CNRS. Elle est chercheuse au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France. Mais c'est surtout une scientifique de terrain qui a été notamment honorée en 2018 par la très prestigieuse médaille d'argent du CNRS. C'est extrêmement rare pour une anthropologue et notamment pour une femme. C'est d'ailleurs une première. Elle est spécialiste des aborigènes. On la retrouve tout de suite. Ça fait 40 ans qu'elle vit à leur côté et qu'elle écrit sur eux.
Barbara Glozewski, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Barbara.
Et merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce peuple qui reste pour la plupart des gens très mystérieux, les aborigènes. Alors d'abord, quelle est la définition du mot aborigène ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, ça veut dire originaire de, ab origène. Donc, c'est les peuples autochtones, les peuples qui viennent, en l'occurrence en Australie, qui sont là depuis au moins 60 000 ans.
D'accord, ce sont les premiers habitants d'un endroit, en fait.
Exactement. Mais dans le cas des aborigènes d'Australie, c'est plusieurs centaines de langues différentes qui ont habité et continuent d'habiter le continent.
D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire, Barbara, parce qu'on le lit souvent, ça, je crois que c'est une phrase célèbre, que le peuple aborigène est le plus ancien des peuples toujours vivants sur son territoire ?
Alors, au niveau des recherches archéologiques, effectivement, 60 000 ans, c'est un record qui n'est pas encore battu. Ceci dit, on fait toujours de nouvelles recherches et aussi bien en Australie que sur les autres continents, on peut trouver des traces d'occupation peut-être un jour.
Bon, et là, ce que vous disiez en introduction, en citant le nombre de langues, c'est déjà aussi presque une définition. En fait, on parle du peuple aborigène, mais on devrait dire les peuples aborigènes. Vous parliez de plus de 200 langues, ça veut dire 200 petits territoires sur cette grande Australie.
Alors, effectivement, c'est une immense mosaïque de territoires différents et qui, avec le temps d'ailleurs, ont beaucoup changé au niveau climatique, au niveau de la végétation et même de la faune, puisque les aborigènes ont connu des marsupiaux géants, comme les kangourous, mais qui étaient immenses.
Ça veut dire quoi, volcans. Un kangourou géant ? Il mesure combien ?
Eh bien, écoutez, ça pouvait être jusqu'à 4 mètres.
Ah oui, quand même. Ouais.
Voilà.
Ouais.
Ouais.
Belle bête, voilà. Effectivement. Et ces aborigènes sont arrivés comment, alors ? Parce qu'on se dit, à l'époque, les transports en commun, c'était moyen, hein ?
Eh bien, à l'époque, justement, si on remonte à 60 000 ans, la configuration du continent australien n'était pas du tout celle d'aujourd'hui. Par exemple, il y a 4000 îles qui sont séparées du continent aujourd'hui, qui avant faisaient partie de ce continent. Donc, l'espace maritime avec l'Asie était beaucoup plus petit, ce qui fait qu'on pouvait venir plus facilement en arrivant d'Asie. Et donc, on pense qu'ils sont arrivés d'Asie du Sud-Est. Ceci dit, dans toutes nos disciplines dites scientifiques, il y a toujours de nouvelles théories. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a aucun autre peuple dans le monde qui a la même composition génétique que tous ces peuples aborigènes de langues différentes.
Et pourtant, ils sont arrivés, ils étaient issus de tribus déjà, dont on devrait pouvoir retrouver des gènes dans d'autres tribus qui sont restées, entre guillemets, continentales.
Peut-être, mais peut-être aussi qu'il y a eu tellement de brassages sur les autres continents qu'on n'arrive pas vraiment à construire une ancestralité de ce genre. Bon, ceci dit, voilà, ce sont des humains, hein, donc en ces termes-là, bien sûr, ils sont proches de nous. Mais il y a, avec le temps, une singularité qui s'est développée sur ce continent, tout en multipliant la diversité des langues.
Qu'est-ce qui pouvait motiver ces migrations chez les peuples de cette époque ?
Ah, ça c'est difficile à dire vu que nous n'y étions pas. Mais en tout cas, visiblement, comme ils se sont installés en Australie, ils y sont restés. Peut-être ont-ils fait un beau rêve leur disant que là était le pays de leur rêve. Et d'ailleurs, comme vous le savez, le rêve est très important chez eux.
Oui, on va en parler. C'est vrai que c'est en plus un de vos sujets de travail, de recherche important, que celui du rêve dans ces populations. Juste avant, il y a donc 60 000 ans, évidemment, on l'a dit normalement, hein, puisque les recherches sont encore en cours, on peut trouver d'autres choses. Ces aborigènes s'installent sur cet immense continent de 14 fois la France, quand même, l'Australie. Et il y a quand même une date clé, c'est l'arrivée des colonisateurs, des colons anglais, hein, qui va tout changer pour ce peuple. Ils étaient combien à l'époque, au 19e siècle, quand ça se passe?
Alors, quand les premiers explorateurs arrivent, d'ailleurs, peut-être vous seriez intéressé de savoir que Napoléon avait envoyé une expédition, l'expédition Baudin, avec des scientifiques à bord et des deux artistes qui ont donc fait de très très jolis dessins des côtes et des premières populations qu'ils ont vues, de la faune et de la flore. Et en fait, bon, à l'époque, Napoléon n'était pas très intéressé de coloniser l'Australie, ce qui fait que les Britanniques arrivent un tout petit peu plus tard et posent le drapeau, voilà, du côté de Sydney et décident que ça devient un pays britannique colonisé, où ils vont envoyer des bagnards, comme la France a fait en Nouvelle-Calédonie et à la Réunion française. Voilà, et à la Réunion, tout à fait, bon, dans les DOM-COM actuels. Et donc, voilà, ça va être ça, la première occupation. Et au départ, il y a une sorte d'accord à l'amiable avec des aborigènes qui voient arriver ces étrangers et qui ne s'attendent pas du tout à ce que ça transforme leur mode de vie. Mais très vite, la situation va devenir très violente et donc il va y avoir un conflit sur les terres occupées par les colons et celles des aborigènes, notamment par rapport au point d'eau où les Britanniques, donc beaucoup d'Irlandais et d'Écossais qui avaient été justement envoyés en Australie, vont développer des grandes fermes de bétail en important du bétail qui va concurrencer toute la vie australienne. Des habitants d'Australie, qu'ils soient humains ou non humains, donc surtout les kangourous les émeus qui sont les grandes autruches australiennes. Et donc, cette bagarre pour l'eau va faire que les aborigènes qui ne disposent que de lances pour se défendre, vont tout simplement tuer des animaux qui viennent dans leur coin d'eau. Et contre chaque tête de bétail tuée, c'est une famille, un clan qui va être massacré.
Donc les aborigènes, en Australie, il n'y avait pas de bœufs, il n'y avait pas de chevaux, je suppose, il n'y avait pas d'ânes ou de mulets. Ils se nourrissaient des animaux que l'on trouvait à l'époque. Ces animaux sont toujours présents aujourd'hui ou il y en a beaucoup qui ont disparu?
Il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu parce qu'elles ont été littéralement envahies par les espèces importées. Par exemple, les fameux lapins qui se sont multipliés, comme on le sait. Et donc qui effectivement aussi ont participé de l'extinction de certaines espèces de petits marsupiaux. Mais bon, il y a des programmes de rangers, enfin de parcs nationaux pour essayer de faire revenir les espèces qui ont disparu. Mais des kangourous, des marsupiaux, enfin du gibier, il y en a tellement encore qu'aujourd'hui des fermiers descendent par exemple avec des mitraillettes des centaines de kangourous parce qu'ils se multiplient rapidement. Je voudrais raconter une anecdote qui montre que parfois la science fait peut-être des erreurs et cela nous donne à réfléchir par rapport aux choix qu'on doit faire aujourd'hui. Les kangourous, c'est d'abord une viande qui est délicieuse. Moi, j'ai eu la chance de la manger sous différentes formes. Et d'ailleurs, on trouve du kangourou aussi dans les restaurants aujourd'hui en Australie et puis dans des magasins. Mais ce sont des animaux qui ne dégagent pas du tout du gaz, du mauvais carbone, comme le bétail. Et donc, on aurait pu penser que, puisque ce sont les animaux de ce pays-là, qu'on s'habitue, on le fait déjà, à manger cette viande-là, plutôt que de continuer à avoir ces immenses troupeaux de bétail, d'élevage extensif. Eh bien non, il y a eu un programme international, dont d'ailleurs la France a fait partie, enfin des chercheurs français, pour en fait modifier génétiquement les bœufs afin de leur donner les organes qui donc ne polluent pas des kangourous. Moi, personnellement, je trouve ça un peu absurde.
Ah ouais, le kangourou est le seul herbivore qui ne méthanise pas, hein, les fameux P et rots de vache. Hein, c'est à l'inverse, voilà. Lui est beaucoup plus sain pour la couche d'ozone. Important pour nous aujourd'hui, avec Jean-Michel, de vous avoir ici à nos côtés et avec nos auditeurs pour savoir, par exemple, que si on en suit les chiffres que vous nous avez donnés dernièrement, à Galea notamment, 4% aujourd'hui de la population australienne, seulement 4%, alors qu'on a bien compris qu'ils étaient le peuple premier, hein, est d'origine aborigène. Ça fait à peu près deux fois la population de la Corse, 580 000 habitants.
Oui, tout à fait. Oui, parce qu'ils ont été donc repoussés de leur territoire qu'ils occupaient sur tout le continent. Forcés à la sédentarisation, parce qu'ils avaient un mode de vie semi-nomade, en se déplaçant sur des lignes qui ressemblent un petit peu aux lignes de transhumance, d'ailleurs, que j'ai vues au musée de Corti, là, sur une grande maquette de la Corse. Voilà, pour pouvoir survivre, il fallait, particulièrement pour les populations du désert, à peu près les deux tiers de l'Australie à l'intérieur, c'est un désert, donc ils devaient parcourir de très grandes distance en fonction des saisons pour pouvoir se nourrir, mais en même temps ils étaient tout à fait gardiens d'un certain nombre de sites sacrés, chaque groupe, les hommes et les femmes.
Vous parliez de transhumance des aborigènes, mais la transhumance ça implique des animaux, ils faisaient de la transhumance des kangourous?
Ah, ils n'avaient pas besoin de les faire se déplacer, les kangourous eux-mêmes sont nomades, donc ils partaient en chasse. Mais pas seulement pour du gibier, parce que la nourriture végétale aussi est extrêmement importante. Et donc, il y a même dans le désert, il y a par exemple beaucoup de ce qu'on appelle des pommes de terre sauvages, enfin des ignames, et donc des immenses comme ça rhizomes, donc des racines souterraines qui s'étendent sur des centaines de kilomètres à partir de certains points où ces ignames se reproduisent. Et voilà, il y a toutes sortes de nourriture selon les saisons, donc on vivait de chasse et de cueillette, tout en prenant soin de la terre. Et c'est très très important de faire des feux de brousse régulièrement pour, comme disent les aborigènes des différents peuples, nettoyer le sol, parce qu'on l'a vu ces 20-30 dernières années, quand on ne nettoie pas le sol, il y a beaucoup d'herbes qui sont très inflammables, et donc ça fait des feux absolument gigantesques, et qui sont là aussi, qui dégagent du très mauvais carbone et qui polluent donc l'atmosphère aussi bien en Australie qu'ailleurs sur la planète, et donc participent du changement climatique qui touche très fortement, hein, l'Australie, sans parler d'autres pays aussi, des îles du Pacifique.
Là, vous le disiez tout à l'heure, Barbara, il y a quelques secondes, l'importance du trait de la ligne, l'importance aussi des endroits totémiques, enfin des endroits sacrés pour les aborigènes. S'ils se contactaient entre eux, s'ils se rencontraient entre eux, on a compris qu'il y avait pourtant plein de langues qui les différenciaient, aussi éloignées que le chinois peut l'être du français, hein, y compris sur leur territoire. C'est aussi parce que justement, d'un territoire voisin à l'autre, ils devaient continuer, hein, se donner quasiment la main pour continuer à rester près de ces sites sacrés, c'est ça, hein, c'est cette continuité, cette ligne entre territoires qui les liait entre eux.
Oui, tout à fait, c'est-à-dire que tout ce qui existe dans la nature et la culture, les animaux, les plantes, la pluie, le feu, le tonnerre, différentes étoiles, tout ça est une espèce de réseau connecté d'influences différentes. Bon, par exemple, il y a certains poissons qui arrivent sur certains rivages juste au moment où fleurit un type de plante particulière, donc l'un est le signe de l'autre et vice-versa, et donc toutes ces de même certaines étoiles se déplacent d'une certaine façon à certaines saisons et elles correspondent à la couvade de certaines espèces d'oiseaux qui donnent d'ailleurs leur nom à ces étoiles-là. Donc il y a une multitude de liens qui ont été repérés donc par les différents peuples du continent et qui les relient en fait dans un système spirituel qui est commun et qui consiste à attribuer à des êtres ancestraux, hybrides, d'animaux, de plantes et d'humains, le fait d'avoir donné forme au paysage qui maintenant, sous forme de sources, de collines, sont des sites sacrés dont des groupes de langues différentes ont le gardiennage, mais le récit de voyage, par exemple, du peuple pluie, eh bien, traverse toute l'Australie et comme pris en relais sous forme de feuilleton, hein, chacun a un bout d'histoire et qui est prise en relais par ses voisins au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Donc, il y a ainsi des récits pour l'émeu qui d'ailleurs, en tant qu'ancêtre, est considéré comme un dinosaure qui a un peuple de dinosaures qui a laissé des traces ici et là sur le continent, et quand la mer part loin avec les grandes marées, on peut voir ces traces en forme d'immenses flèches, ainsi que le peuple igname, le peuple feu, le peuple kangourou. Donc il y a toutes ces lignes qui forment un immense réseau qui traverse l'Australie, qui sont prises en relais de peuple en peuple. Et ce qui les relie au-delà des langues, ben c'est le fait d'échanger des objets, des outils, des armes, du tabac, des champs, etc. Donc ceci a fonctionné malgré la colonisation jusqu'aux années 70. Et puis dans les années 70, bon, il y a eu des victoires politiques pour les revendications territoriales. Et donc voilà, la priorité a été de faire ces procès qui, pour certains groupes, continuent aujourd'hui, non sans créer de nombreux conflits entre les familles et puis évidemment avec des compagnies minières et avec l'État. Enfin, l'Australie est une fédération, donc il y a une législation qui est un petit peu différente selon les États. Et donc, en récupérant leurs terres, bon, ils sont passés souvent à une autre économie. Et ce qui est le plus important, ce qui a leur apporté le plus d'argent à un moment donné, ce sont les mines, parce que en Australie, quand on récupère un territoire, enfin quand on est propriétaire d'un territoire, c'est aussi valable pour les non-aborigènes, et bien en fait on a la propriété du sous-sol, donc on a un droit sur le sous-sol. Donc au début, beaucoup d'aborigènes ont fait ce choix économique, alors que d'autres, notamment des anciens, leur disaient « faites très attention, vous risquez de polluer les terres et notamment l'eau ». Et effectivement, aujourd'hui, la situation est assez dramatique, notamment aussi avec des projets de gaz de schiste, enfin, qui ont commencé, bon, l'uranium. Et donc, il y a de plus en plus d'aborigènes qui se battent au nom de leurs droits territoriaux, qu'ils soient déjà reconnus comme ayant récupéré leur territoire ou étant toujours en instance de demande au tribunal, qui refusent donc cette exploitation minière. Et une autre source de revenus, c'est l'art. C'est très important. Dans la plupart des communautés, il y a des coopératives artistiques qui se sont montées. Et les œuvres qui sont produites sont toujours des cartographies de ces lignes dont nous parlions tout à l'heure et de territoires des ancêtres spirituels, totémiques, comme on dit en anthropologie, et qui sont vendues dans le monde entier, dans le circuit de l'art contemporain.
On va faire une petite pause musicale et on va revenir sur les aborigènes dans un moment, notamment avec une décision de la Haute Cour de justice d'Australie qui pourrait coûter à terme des milliards au gouvernement australien. Et puis on parlera de cet art également qui est très intéressant. On se retrouve dans 3 minutes, si vous le voulez bien, Barbara Glovesky.
Merci.
RCFM, Sabienza, Fabrice Fenouillère, Jean-Michel Fradigini.
Antonio Diosi e Maris Nicolai sotto di Iulu.
O du me sotto di Iulu, begu sempre u to vi Iulu. A pressa monunziata, composto da neriata. Guarda chi ste creature, a momenti so mature. Eu dou macho esquirinado como um homem ultrapassado. A uma mamma toccadilla e um só così tranquilla. A stuialu que risplende, uma bulezza si rende. E a mia si consume, a pulisce si e piume.
Che mi canti qui per Bacco, tu che sei sempre na facu. A chiamati Santinella, a prime a dozidella. Alla fari di natura, ci metti troppo primura. Assente la so capisco, non ti manca che ufisco. Se l'è bella come un fiore, quella che ti fa onore. Con la taglia mai detta, ma si veste troppo stretta. tu voli a mo' pensata, mi pare bella avanzata.
O gestiru gli colombi, fiori ne coglienu mondi, e quello che la nasceglie un anco va tu mele. Ma tu amo nunziata, avei presto spugliata, e quello che è schirinato è un pezzo già pensato. Mai parla d'un finezza, rispondo in delicatezza. Cavane l'ora che la zia moglie nora, un'è così avanzata, tu l'hai troppo antata.
Oh, sì, chi mi interessi, sento che tu ti confessi, è veramente un peccato, con sia mi incagurato. Dicerebbe cristiana, un'eminca denatana, non sia sottau di liolo, con bellissimo vigliolo, per un esse che un meo, un seraminca uveglio, ha un socio ratificato, uso buon assicurato, chi ti posso dire di meglio che le brau stuzzitelo. Che le bravo studi te.
Antonio Diosi e Maria Nicolai, sotto di Liolo.
Sabienza, Jean-Michel Fradicelli, Fabrice Fenouillère.
L'invité d'aujourd'hui pour nous parler des aborigènes, Barbara Glowacki, grande spécialiste de la chose.
Ah oui, c'est une anthropologue de terrain. Et quand on dit, notamment, qu'au Collège de France, on le disait pour son laboratoire d'anthropologie et ses recherches, important, une anthropologue de terrain, 40 ans au contact de l'Australie, de ce désert central, de ces peuples, de l'écrit évidemment dessus, des témoignages, beaucoup de vidéos qu'elle a su d'ailleurs remontrer 40 ans après. Et on a la chance d'avoir au téléphone, je crois que vous avez une question autour du commandement.
Oui, comment s'organiser la vie? Est-ce qu'il y avait un roi? Est-ce que les tribus se sont fédérées à un moment donné, ne serait-ce que pour s'unir face aux colons?
Alors, non, il n'y avait pas de système hiérarchique, quel qu'il soit. Chaque groupe était maximum, entre 1000 et 4000 personnes de langues différentes. Les Walpiri en particulier, avec qui je travaille depuis 40 ans, donc dans le désert central, ont été sédentarisés de force vers la fin des années 40, début des années 50, dans un centre administratif de l'État. D'autres ont été sédentarisés dans des missions. Donc, vis-à-vis des colons, il n'y a pas eu de fédération politique, mais il y a eu un très fort mouvement de lutte pour les droits de la terre, qui est souvent parti d'ailleurs des métis des villes, mais que les aborigènes qui restaient dans les communautés du centre et du nord ont soutenu, même si au départ ils ne savaient pas lire et écrire. Ils étaient d'excellents orateurs et donc se sont mobilisés de manière extrêmement créative pour obtenir auprès de différents avocats des modalités nouvelles de revendication des terres, et certains comme les Walpiri, donc avec qui je travaille en particulier, ont réussi. Et je suis allée en Australie en 79 alors qu'ils venaient de gagner un territoire qui était grand, disons, de 600 km nord-sud. Ah oui. 300 km est-ouest.
Là, au mois de mars dernier, la Haute Cour de justice australienne a décidé d'indemniser des aborigènes qui avaient été spoliés. Le territoire du Nord s'est vu dans l'obligation de payer 2,5 millions de dollars australiens aux communautés aborigènes. Et vraisemblablement, il y a de plus en plus de plaintes qui vont être déposées. Et l'État australien craint que ça ne lui coûte des milliards au bout d'un moment.
Alors, c'est vrai, si vraiment les communautés font ce choix de demander une compensation financière pour ne plus avoir accès à leurs terres qui sont donc utilisées pour des projets de développement. Mais il y a quand même beaucoup de groupes qui refusent en fait qu'il y ait ces projets de développement et qui ont déjà réussi à gagner leurs terres, récupérer leur territoire. Donc ils sont en position, disons, de chantage vis-à-vis du gouvernement. Alors il y a toujours quelques familles qui sont avares de cet argent proposé. Mais ce n'est pas forcément la logique générale en Australie. Et pour rester aussi dans la ligne de ce qui s'est développé avec la colonisation, en 1972, tous les peuples d'Australie se sont réunis sous un drapeau commun. Donc c'est une, si vous pouvez le voir en recherchant peut-être sur internet, donc c'est une barre rouge pour la terre rouge en bas, une barre noire au-dessus pour le peuple noir et un cercle jaune à cheval entre les deux barres pour le soleil et l'espoir. Et donc avec ce drapeau, depuis les années 70, le gouvernement a été obligé de reconnaître une journée nationale aborigène et de prendre en compte beaucoup de revendications différentes. Les choses ne sont jamais gagnées parce qu'il y a énormément de racisme, des problèmes même de structurels au niveau du gouvernement qui rejette les aborigènes, y compris les métis, qui ont été très très maltraités au cours du temps. On a systématiquement enlevé les enfants métis aux aborigènes et aujourd'hui les métis sont extrêmement forts et fiers de leur situation en tant qu'aborigènes et assument cette histoire et préfèrent s'identifier souvent en tant qu'aborigènes qu'au nom des autres ancêtres qu'ils ont.
Difficile de résumer en une petite demi-heure 60 000 ans d'histoire, mais vous y êtes parvenu d'une manière absolument remarquable. C'est malheureusement la fin de cette émission qui aurait pu durer des heures et des heures. On vous écouterait pendant des heures, Barbara Glowacki. Merci à vous, Fabrice.
Merci beaucoup, Barbara. Merci beaucoup.
Et à bientôt.
À bientôt.
La semaine prochaine,
à
Fabrice.
La semaine prochaine, on va s'intéresser à la physique quantique pour essayer de comprendre ce qui se cache dans l'infiniment petit.
Physique quantique, ce n'est pas la physique qui s'échange dans les églises.
Non, non. D'accord. Celle-là, elle est complexe, on va la comprendre.